Vous écoutez France Culture.
Réplique, Milan Kundera dans La Pléiade, avec Dominique Fernandez et François Ricard. Innombrables sont les écrivains qui écrivent des livres. Rares, infiniment rares, ceux qui deviennent des livres. Plus rares encore, ceux qui connaissent cette transsubstantiation de leur vivant. C'est le cas de Milan Kundera, entré ces jours-ci dans la bibliothèque de la Pléiade. En plus de son corps de chair, le voici désormais doté de ce corps glorieux, deux forts volumes, 1300 pages en papier Bible. Je me réjouis de cet événement. Mais ce n'est pas seulement pour le célébrer que j'ai invité aujourd'hui François Ricard, l'auteur de l'édition de Kundera en Pléiade, et le grand écrivain Dominique Fernandez. C'est pour réfléchir à sa signification. Car il ne s'agit pas d'une édition comme les autres. Dès la couverture, on s'en rend compte. Nous ne sommes pas invités à lire les œuvres de Kundera, mais l'œuvre, tout simplement. Pourquoi ce singulier, François Ricard ?
Ce singulier qui est tout à fait singulier, je crois que c'est le seul cas dans la collection de la Pléiade. D'après ce qu'on me dit, il y a un autre volume qui porte le titre « œuvre au singulier », mais avec un adjectif, c'est l'œuvre poétique de Claudel, je crois. Pourquoi ce singulier ? D'abord pour bien marquer l'unité de l'œuvre de Kundera, d'une part, c'est-à-dire même si l'édition comprend 15 livres, 10 romans, une pièce de théâtre, 4 essais, tout cela forme un ensemble homogène, un ensemble qui est traversé par toujours les mêmes thèmes, les mêmes préoccupations et surtout le même art, qui est toujours la seule préoccupation de Kundera, cet art du roman. Donc ce titre veut marquer d'abord la singularité, mais il marque aussi une certaine exclusion, c'est-à-dire que Kundera, comme vous le savez, a toujours tenu à bien marquer les limites de son œuvre. C'est pourquoi cette édition ne comprend pas, comme le font d'autres éditions d'œuvres dites complètes, ne comprend pas les textes de jeunesse, ne comprend pas les écrits de circonstances, mais uniquement ce que Kundera assume en pleine maturité, en pleine conscience, comme l'ensemble des écrits dans lesquels il a réalisé pleinement ses volontés esthétiques. Alors, l'œuvre marque à la fois donc unité, complétude aussi. Dans ce titre, il y a l'idée que on a vraiment l'ensemble de quelque chose, la totalité, l'intégralité de cette œuvre, à laquelle vont peut-être s'ajouter d'autres textes. Ça n'est pas impossible, je n'en sais rien. Mais dans l'état actuel, c'est vraiment une totalité qui nous est présentée.
Dominique Fernandez, est-ce que cette vision des choses vous satisfait ? Après tout, Kundera est intervenu dans la vie publique. Il y a des textes de circonstances qui peuvent paraître importants. Est-ce que vous comprenez ce désir d'exclusion, pour reprendre le terme de
non seulement je comprends,
François Ricard ?
Mais j'approuve, parce que la manie aujourd'hui de rassembler tous les bricoles, les fonds de tiroirs, dans l'idée que tout ce que fait un grand écrivain mérite de rester. Non, c'est pas vrai. Les grands écrivains peuvent être moyens, peuvent être dictés par les circonstances. Kundera, là, a voulu, ça c'est l'avantage d'être vivant, a voulu que soit dans ces deux livres ce qu'il considère vraiment comme son œuvre. Pas les œuvres complètes. C'est pour ça que quand vous dites que c'est complétude, non, c'est pas complétude, justement. C'est pas la totalité de ce qu'il a écrit, c'est la totalité de ce qu'il considère.
Voilà.
Comme
de ce qu'il assume, pleinement.
Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Et malheureusement, les universitaires, maintenant, se jettent sur les... Quand l'écrivain est mort, et publient, ramassent tous les petits bouts, et c'est insupportable, ça.
Alors, je ne me ferai pas l'avocat de ces universitaires, parce que nous parlerons peut-être d'œuvres de la Pléiade qui sont aujourd'hui obèses à cause, précisément, de la mise sur le même plan des œuvres et des brouillons. Mais revenons-en au cas de Kundera lui-même, et peut-être à la violence d'une certaine exclusion. Vous, François Ricard, dans cette édition, vous faites ce que vous appelez, et c'est une autre originalité, une biographie de l'œuvre. Autrement dit, vous prenez chacun des textes, vous analysez sa genèse et sa réception. Prenons par exemple « La vie est ailleurs », grand roman de Kundera sur la poésie, entre autres. Il a écrit ce livre après le printemps de Prague, en pleine période de normalisation. Et vous faites référence à un texte, à un discours qu'il a donné en juin 1967 au 4e congrès des écrivains tchécoslovaques. Discours inaugural qui est demeuré célèbre, qui a été suivi d'un quart d'heure d'applaudissements, qui a donc joué un très grand rôle dans le printemps de Prague. Vous en livrez un extrait. Vous dites qu'il a été publié dans l'édition d'avril de 1968 des Temps modernes, sous le titre « Culture et existence nationale », puisqu'il dit les écrivains tchèques sont responsables de l'existence même de leur nation. Justement, cette petite nation, la nation tchèque, eh bien, dépend dans sa vie même de l'état de sa culture. Et par conséquent, ceux qui voudraient étouffer cette culture, dit Kundera, compromettent l'existence de la nation. On se dit quand même, dans un appendice, pas dans l'œuvre elle-même, ce discours devrait figurer. Puis d'ailleurs, il figure un peu, mais pas tout à fait. Pourquoi nous est-il soustrait? Cette curiosité de lecteur est légitime, et si elle était satisfaite, ça ne retirait rien au roman, à l'œuvre de Kundera.
Ben, d'abord, je dois dire que ce choix, cette décision a été prise par Kundera lui-même, mais bien sûr, j'étais personnellement tout à fait d'accord. J'ai joué très honnêtement et avec plaisir les règles du jeu. Mais comme vous dites, ce texte, il est signalé dans la biographie de l'œuvre. Il y a une référence même, que vous pouvez très bien en bibliothèque ou maintenant aujourd'hui sur Internet retrouver ce texte. Mais pour Kundera, c'est un texte qui reste malgré tout circonstanciel, et vous le dites vous-même, il a prononcé ce discours à un moment très particulier, ce congrès qui était dans lequel la pression politique était très grande. Et pour lui, ça restait d'abord et avant tout un texte de service. C'est un texte au moyen duquel il rendait service, en quelque sorte, à ses camarades écrivains, à son pays en même temps. Mais, comme il le dit ailleurs, je crois, il n'y avait pas là, rien de neuf, selon lui, rien de neuf. Ou alors, ce qu'il y a de neuf, il a repris ailleurs, parce que ses idées se retrouvent dans Le Rideau, entre autres. Elles se retrouvent un peu dans Une rencontre aussi. Donc, il a retiré, en quelque sorte, la substantifique moelle de ce que signifiait ce texte. Je ne sais pas si vous l'avez lu dernièrement. Bon, c'est un très beau discours, mais tout n'est pas... Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont vieilli. J'ai retenu quelques citations essentielles, mais l'idée la plus importante, cette idée de la centralité de la culture, elle se retrouve ailleurs, dans ses autres écrits, et de façon, je crois, encore plus détachée des circonstances et épurée, pour ainsi dire.
Épurée.
Mais moi, j'ai une autre explication, qui est personnelle, parce que j'en ai pas parlé avec Milan Kundera, c'est que cette édition est un effort quand même de détchéquiser l'œuvre de Kundera. C'est-à-dire qu'elle est née dans un contexte que nous savons douloureux, tragique, de la répression, de la dissidence. Mais moi, ce qui m'a frappé quand j'ai relu La plaisanterie et Rizib Zamour, ces œuvres écrites sous la dictature, c'est qu'elles ne sont pas du tout liées à ça. Parce que longtemps, on a fait de Kundera le dissident. Et depuis qu'il n'est plus dissident, alors il ne serait plus rien. Or, ce qui m'a frappé en lisant, c'est que tous ces thèmes, la désillusion, la trahison, l'immaturité, le mélange du grotesque et du tragique, sont éternels. Ils ne sont pas du tout liés à Prague, ni aux événements d'alors qu'il y avait en Tchécoslovaquie. Et donc, je comprendrais bien qu'il ait éliminé tout ce qui rappelait les circonstances historiques trop précises de ses œuvres. Ses œuvres sont éternelles, sont les œuvres d'un artiste et pas du tout d'un homme engagé politiquement, même s'il a été engagé politiquement. Mais ce qui va rester, ce n'est pas l'engagement politique, c'est l'œuvre. Et ça m'a énormément frappé. Alors, je comprendrais bien qu'il sorte son œuvre du contexte trop précis.
Mais d'ailleurs, il a souffert de cette politisation pendant très longtemps. Et il faut attendre, je ne sais pas, une quinzaine d'années avant que, même en France, on s'intéresse à Kundera pour d'autres raisons que des raisons politiques.
Oui, mais au début, on disait...
C'était le dissident, c'était le seul génie tchèque.
Il avait un créneau comme ça, bien, et une fois qu'il a perdu ce créneau...
Il en souffrait beaucoup.
On l'a beaucoup attaqué.
Moi, je peux vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Moi, je l'ai connu à cette époque, à la toute fin des années 70. Il était venu au Canada. Et bon, moi, innocemment, en provincial que j'étais, à la suite de sa visite, et comme j'étais un de ses lecteurs, j'ai fait un article sur lui pour une revue littéraire québécoise. Et il a été, moi je l'ai fait innocemment, j'ai lu son œuvre comme une œuvre littéraire et non pas comme une affirmation politique. Et il a été comblé par ce texte, m'a-t-il dit. Enfin, il a été très content, parce que, mais moi je le faisais de manière tout à fait innocente, qu'enfin on le lise pour autre chose que ses idées politiques. Et vous avez parfaitement raison. Le contexte politique, l'inspiration politique, ce n'est pour lui... que ce ne sont que des... La situation politique, c'est un piège qui permet de révéler des choses qui ne tiennent pas seulement à la situation politique.
De tous les temps, je veux dire.
Voilà, comme
Voltaire,
exactement ce que
France,
vous dites. La mystification, la surveillance.
C'est très frappant. Il faut coucher avec la directrice pour obtenir quelque chose. Ça se reproduit dans toutes les situations, tous les bureaux.
Oui, alors, je peux citer à l'appui de ce que vous dites un passage de Kundera. Ce n'est pas l'histoire qui intéresse un romancier, mais bien la condition humaine démasqué par la situation historique.
Voilà.
Ce qui fait quand même que la situation historique a son importance, puisqu'il est des situations historiques nouvelles, comme le totalitarisme, qui dévoilent d'autres, des aspects inconnus de la condition humaine, des choses qu'on ne voyait pas avant que ces situations ne se déploient. Mais
oui, mais ça, pardon, excusez-moi, mais c'est tous les grands écrivains. Je veux dire, quand Zola fait un livre sur la locomotive, c'est pas un reportage sur le chemin de fer, c'est ce que le chemin de fer dégage de la condition humaine, etc., etc.
Oui, bien sûr, mais encore un mot sur la politique, peut-être, parce que Kundera a souffert d'une lecture politique de son œuvre. Et il y a eu un malentendu qui s'est développé en France et aussi en République tchèque. C'est-à-dire, en France, on l'a vu comme un dissident. Et parmi les dissidents, on l'a considéré comme un traître. Parce qu'il ne voulait pas être simplement un dissident, mais avant tout un romancier. Simplement, Kundera n'est pas politisé en ce sens. Reste qu'il a un regard aigu sur la politique. Dans son discours, il montre que la culture est l'enjeu central. Et je pense à un autre texte, un article qui a eu un immense retentissement, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. C'était un retour du thème de l'Europe centrale dans une France qui ne pensait pas dans cette langue. Notre idiome, c'était celui de la totalitarisme contre démocratie, ou bien, quand nous parlions géographie, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est. Mmh. Et tout d'un coup, nous étions déconcertés. Et ça a été vraiment très important, d'autant plus que la dimension culturelle et la dimension nationale ont été l'une et l'autre mises au centre de l'enjeu de la politique par Kundera, ce que nous n'étions pas habitués à faire. Et je trouve que c'est un texte majeur qui pour moi figurera toujours dans l'œuvre de Kundera.
Oui.
Et je comprends qu'il est...
Et vous regrettez que...
Mais je regrette. Ouais. Je regrette.
Mais là encore, ce texte est très largement cité.
Oui.
Dans mon chapitre sur le rideau, qui est un des plus longs, même si le rideau est un petit livre, je consacre beaucoup de pages à résumer, à présenter ce texte. Mais je me souviens d'en avoir discuté aussi avec Milan Kundera. Et il disait, là encore, c'est la même chose. L'essentiel de ce qu'il avait à dire se trouve dans un chapitre du rideau.
Oui, c'est vrai.
Et à mon avis, mieux encore, de façon encore plus précise, encore plus claire, plus épurée, comme je le disais tout à l'heure. Et ce texte d'Un Occident kidnappé, qui est de 83, je crois, donc a été publié en pleine guerre froide. Et je pense que Kundera l'a publié aussi pour aider ses compatriotes, qui, cependant, l'ont assez mal reçu, se sont mis à chicaner, à le quereller sur tel ou tel détail. Et il s'est retiré. Il s'est retiré du débat politique. Mm-hmm. Mais à cette vision de l'Europe centrale, du roman d'Europe centrale, des grands romanciers d'Europe centrale, on la retrouve dans beaucoup d'autres, dans l'art du roman, mais aussi dans le rideau.
Et il y a cette très belle expression à la fin d'Un Occident kidnappé, où il dit aujourd'hui, la culture a été au cœur de l'Europe, ça a été la valeur suprême de l'Europe, après la religion, aujourd'hui la culture c'est de la place, je ne sais pas à quoi, peut-être à la technique, peut-être à autre chose, peut-être à la tolérance, mais tolérance de quoi quand
il a un peu répondu dans l'immortalité à propos de...
Et il parle de ce qu'il appelle le temps passé des temps modernes.
Ouais.
Et je trouve cette expression absolument magnifique.
Oui. Oui, oui.
Mais comme,
oui.
Il ne faut pas oublier que c'est quand même un romancier d'abord. Hein.
Oui.
Moi je crois que c'est quand même c'est comme ça qu'il va rester, parce que dans 100 ans on a oublié toutes ces histoires de Prague et de politique, tu sais où on sera dans 100 ans, mais c'est vraiment un classique, comme on dit, c'est l'œuvre qui... C'est, moi, ça, moi, j'ai relu plusieurs de ses romans, c'est formidable. C'est l'artiste, quand même, qui prime. Et je comprendrais bien qu'on rejette dans la marge. C'est très important, comme vous avez dit, mais c'est pas ça le plus important.
Est-ce que vous trouvez aussi légitime et même nécessaire qu'on jette dans la marge et même qu'on efface presque toute notation biographique?
Ah oui, c'est très bon. Vous savez, les premières Pléiades, c'est Jacques Schiffrin qui a créé la Pléiade avant-guerre, avant que Gallimard le récupère. C'était des éditions autonomes. Puis, les premières Pléiades reliées, enfin, comme aujourd'hui, moi, j'ai le Molière, le Rousseau, il n'y avait pas du tout... Il y avait une préface d'écrivain, un écrivain genre Mauroy, comme ça, humaniste, pas du tout érudit. Puis le texte, pas de notes, pas de bibliographie, pratiquement pas, et pas de biographie du tout. Ça, c'est après-guerre, dans les années, je crois, 60-70, que l'université s'est jetée sur cette collection pour se défouler, pour se justifier. Alors, qu'on fasse des œuvres complètes avec des notes, c'est très bien, mais pas dans la Pléiade. La Pléiade était conçue pour faire des livres de lecture agréable qu'on peut presque mettre dans sa poche, ce qui est devenu impossible avec l'obésité que vous avez signalée. Par exemple, le Proust, qui était en 3 volumes, léger, de 800 pages. Maintenant, il y a 4 volumes de 2000 pages. Il faut une brouette pour les transporter. On n'a plus envie de lire ça là-dedans. C'est un abus, ça. C'est une mainmise abusive.
Alors, sur cette question de la biographie.
Oui, bien sûr. Sur la question
de la biographie. Il y a les notes et il y a la biographie.
Mais je pense que ça aurait été absolument contradictoire s'il y avait eu une biographie, une notice biographique, comme il y a dans la plupart des Pléiades. Ça aurait été contradictoire parce que ça aurait été tout contraire à l'esprit même de l'œuvre de Kundera. C'est partout dans ses textes, dans ses essais, il se prononce contre la biographie, contre l'interprétation biographique. Oui. Et je ne vois pas comment on aurait pu faire pour que l'édition s'ouvre précisément par la négation même de sa propre
parce que non seulement cette édition déchéquise l'œuvre de Kundera, mais elle la dépersonnalise en quelque sorte. C'est plus une affaire d'un individu comme ça précis, à qui il y a une biographie, c'est une œuvre. Voilà. Et toute œuvre est anonyme, comme Homère. Toute grande œuvre n'a pas besoin d'auteur, pratiquement.
Je cale un peu sur le mot détchéquisation. Je reviens à la biographie, parce que tout de même, il y a des grands romans tchèques de Kundera. Ce n'est pas un auteur enraciné, mais Prague est très présent, Risibles amours est un livre tchèque, La plaisanterie aussi, La vie est ailleurs, et L'ignorance est une méditation quand même sur la possibilité ou non d'un retour. Donc le thème tchèque est quand même très présent chez Kundera.
Comme le thème français est présent chez Balzac, le thème anglais chez Dickens, mais c'est pas pour ça qu'ils sont des grands écrivains.
Non,
ils sont universels, justement. Un français peut lire Dickens, un français peut lire Kundera, il est chez
lui. Absolument, pas un écrivain régional.
C'est pas un écrivain régional.
Voilà, vous savez, j'ai relu 40 ans après La plaisanterie, j'avais lu en 69, je crois que c'est paru, ça fait 40 ans, c'est d'une présence hors Prague qui est extraordinaire, même s'il y a des noms comme ça.
Vous savez, on vous avait parlé de détchéquisation. Je pense que c'est plutôt une déhistorisation de son œuvre. C'est-à-dire que dans les Testaments trahis, je crois qu'Kundera assez longuement oppose l'histoire avec un grand H, l'histoire politique, l'histoire sociale, à l'histoire d'un art. Et en fait, tout son effort depuis 20 ans, 30 ans, peut-être même depuis le début, consiste justement à quitter le monde de l'histoire politique, de l'histoire sociale, vers l'histoire de l'art. Il s'installe, en quelque sorte, il se situe dans l'histoire de son art, qui est l'histoire du roman, et non pas dans l'histoire de son pays, ou dans l'histoire du continent européen, ni surtout dans l'histoire de sa propre vie. C'est dans l'histoire du roman. Il dit quelque part, je ne me dois qu'à une chose, l'héritage de Cervantes.
L'héritage décrié de Cervantes.
Il est dans l'histoire de l'homme, tout simplement, comme tous les écrivains du monde.
Ce qui est étonnant, en effet, quand on relit La plaisanterie, moi je l'ai lu à sa sortie aussi, j'étais jeune, peut-être lyrique, mais tout de même assez mûr déjà pour aimer ce livre. Mais il est clair que le contexte politique était particulier. Il y avait
à l'époque, on lisait
l'écrasement du printemps de Prague, et puis il y avait
la préface d'Aragon.
Il y avait la préface d'Aragon et il y avait Mai 68. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre survit très bien à la fin du communisme. Oui, en même temps, on a besoin quand même de savoir un peu ce qu'était le communisme pour le comprendre, mais on voit que sa signification transcende cette période pourtant essentielle. Et ça, c'est un miracle.
Oui, mais je crois que les passages les plus forts sont les plus intemporels. Par exemple, la vengeance, le type qui veut se venger en prenant la femme de celui qui l'a vendu, enfin, qui l'a trahi, et puis il s'aperçoit que cette vengeance se dégonfle. Ça, c'est un thème absolument universel. Ça peut se passer dans une université, par exemple. On peut...
Je dirais oui.
Oui, mais ce que vous avez dit peut-être me porte à parler un peu de l'absence de notes, de l'absence d'explications.
Attends,
nulle part dans l'édition, on a senti le besoin d'expliquer tel ou tel détail de l'actualité tchèque des années 60. Et au fond, je vous poserai la question, est-ce qu'on en a besoin? Non. Est-ce que quelqu'un a besoin, pour comprendre la vie est ailleurs ou la plaisanterie, est-ce que quelqu'un a besoin
pas
de
du
notes?
Tout. Voilà. Les notes diminuent, ramènent justement au détail historique précis.
Donc, ça réduit un peu la...
Voilà.
Le roman, et ça, je pense que c'est une des règles de la poétique de Kundera, le roman doit contenir toute l'information dont le lecteur a besoin pour comprendre de quoi il s'agit.
Il faut faire à côté... Plus tard, une édition critique complète en 35 volumes, pour quelques érudits, ça c'est très bien, ça mérite. Mais la Pléiade, encore, c'est une chose agréable à lire. Oui. Et donc,
c'est une sorte de livre de poche, en quelque sorte.
C'est un livre de poche,
ça a été
conçu comme ça. Voilà,
ouais. Pour emporter dans le désert.
Voilà. Un autre exemple, Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui de Rousseau? C'est les Confessions et les Rêveries. Hein. Tout le reste, un peu quand même... Autrefois, avant-guerre, il y avait les deux dans un volume de 800 pages.
Ouais.
Et on pouvait mettre ça dans sa poche. Maintenant, c'est un volume des œuvres complètes de Rousseau qui a 2000 pages. Et en plus des Rêveries, des Confessions, on a les dialogues, 500 pages de notes. C'est absolument illisible.
Oui.
Vous voyez, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que ça pervertit un peu l'idée première.
Alors, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je reviens à la biographie pour manifester une certaine frustration. Avant cela, en un mot, il me semble que la puissance de la plaisanterie tient en effet à ce thème de la vengeance, mais à l'écho qu'il y a entre l'engagement politique pour, en quelque sorte, la grande revanche du prolétariat et cet engagement existentiel. Kundera est coutumier du fait, c'est-à-dire il montre que la politique... qui peut nous paraître aujourd'hui la plus dépassée, a une sorte de correspondance existentielle, une force anthropologique. C'est par exemple le cas du livre du Rire et d'Oubli, cette nouvelle où Mirek, un dissident, victime du pouvoir, a une obsession, récupérer les lettres qu'il a écrites à une femme, Zdena, parce que cette femme était laide et il veut corriger son passé. Donc d'une certaine manière, il agit comme le pouvoir et comme le pouvoir à son encontre. Ces correspondances fascinent Kundera parce que nous ne sommes plus dans la politique, mais dans la dimension anthropologique. Mais maintenant, je voudrais en revenir à très brièvement, parce que les notes, d'accord, la biographie. Alors, je suis d'accord avec vous, d'accord avec Cioran, un des maîtres de Kundera. Il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe n'ait fait renoncer personne à avoir une vie. C'est une phrase admirable.
Une œuvre.
Et que Kundera pourrait reprendre à son compte. Mais là, je voudrais vous citer un petit passage de Roland Barthes. Roland Barthes, qui parle, dans Sade Fourier Loyola, de l'intérêt qu'il porte à la vie de ses auteurs, à l'encontre même de la théorie du tout textuel qu'il défend. Et il dit « Ce qui me vient de la vie de Sade n'est pas le spectacle pourtant grandiose d'un homme opprimé par toute une société en raison du feu qu'il porte, ce n'est pas la contemplation grave d'un destin, c'est entre autres cette façon provençale dont Sade dénommait Milly, Mademoiselle Rousset, ou Milly Henriette, ou Milly Lépinet. C'est son manchon blanc lorsqu'il aborda Roskeller, ses derniers jeux avec la lingère de Charenton. Ce qui me vient de la vie de Fourier, c'est son goût pour les mirlitons, petit pâté parisien aux aromates, sa sympathie tardive pour les lesbiennes, sa mort par les mille pots de fleurs. Ce qui me vient de Loyola, ce ne sont pas les pèlerinages, les visions, les macérations et les constitutions du saint, mais seulement ses beaux yeux, toujours un peu embuée de larmes. Et ceci pour finir, si j'étais écrivain et mort, comme j'aimerais que ma vie se réduisît par les soins d'un biographe amical et désinvolte à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher à la façon des atomes épicuriens quelques corps futurs promis à la même dispersion. Et il est vrai que quand on aime un auteur, on a cette curiosité. Une amie me disait qu'elle avait appris, par exemple, que Simone Veil à Londres, dans les derniers mois de sa vie, lisait Jane Austen. Et tout d'un coup, elle a levé la tête. Jane Austen, Simone Veil, pourquoi ? Et elle aimait cette surprise. Donc il y a, si vous voulez, une curiosité biographique qui n'est pas forcément réductrice, qui n'est pas forcément désobligeante, qui n'est pas forcément indiscrète, et qui naît de l'amour même qu'on éprouve pour un écrivain. Je pense, et j'en ai terminé, à des photos. Kundera contrôle aussi ces photos. Puis tout d'un coup, il y en a une parue, je ne sais pas si c'était dans l'Express, où on le voit en 1975. Il regarde un chien qu'il tient dans ses mains. Et c'est un Kundera inattendu. Et j'ai vu ça avec une certaine émotion. Je me suis dit, c'est un Kundera par surprise. Oui, mais, et on a envie de ça.
Oui, mais il y aura des biographies plus tard de Kundera. Alors là, on sera content. On verra le chien et tout. Mais l'œuvre de Kundera, c'est autre chose. C'est, oui, pas, c'est vrai. C'est ça qui est important.
Et de toute manière, on va pas, et oui, c'est un beau passage que vous avez lu, mais on va pas interpréter l'œuvre de Sade de cette façon, à partir de ce détail, ou celle de Simone Veil à partir de sa lecture de Jane Austen.
D'ailleurs, je pense que beaucoup de détails de la vie de Kundera sont dans les romans.
Voilà, pour les chiens, détecter. Par exemple, les chiens, il y en a plein chez lui. Il y a un amour des chiens.
Il y a beaucoup d'obsessions qui reviennent, qui récurrente, voilà. Et on se dit bien que l'auteur y est pour quelque chose.
Moi, bien sûr, mais le danger, c'est la réduction à la, voilà, à la biographie. C'est, bien sûr, voilà. C'est de refuser de lire un texte pour ce qu'il, voilà, est, soit pour le ramener à des significations politiques qui sont tout à fait secondaires, ou encore pire, à des significations, oui, biographiques. Et moi, ce que j'admire chez lui, enfin, dans cette décision qu'il a prise d'effacer toute biographie, c'est au fond qu'il fait passer son œuvre avant lui-même. Ça n'est pas à sa propre gloire comme personne.
Surtout aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, le public ne s'intéresse plus tout aux œuvres, il s'intéresse à la vie.
Au people.
Oui, people. Et plus ça va, plus bientôt il y aura des livres blancs, il n'y aura rien, et il y aura
tout un contexte
autour des émissions et tout ça. Donc là, je trouve que c'est un acte fort de la part de Kundera de refuser tout cette chose molle qu'il y a autour de l'œuvre. C'est l'œuvre qui compte. Lisez l'œuvre, lisez mon œuvre.
Alors, pour aller dans votre sens, cette fois-ci, après cette petite digression barthésienne, je voudrais citer ce très beau passage du Rideau, « On m'a tué mon Albertine », où il parle de ce poète tchèque qui avait un vers récurrent, « Albertine Koti », ce qui veut dire « Albertine toi ». Et ils disent, c'était Proust qu'il avait en tête. Et Kundera dit, eh bien moi, j'ai lu Proust avec ce vers. Et donc, j'ai évidemment, lorsque j'ai abordé, quand je suis arrivé aux jeunes filles en fleurs, l'Albertine de Proust s'est confondue imperceptiblement avec l'Albertine du poète. Puis tout d'un coup, il y a eu une biographie, Albertine était un garçon. Et il dit, mais ça, c'est pas du tout ce que je voulais, parce que mon image d'Albertine était brouillée. On m'a tué mon Albertine, et je voudrais dire la fin, parce qu'elle est très belle. Et je pense aux mots de Flaubert, l'artiste doit faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu. Il faut bien comprendre le sens de cette phrase. Ce que le romancier veut protéger en premier lieu, ce n'est pas lui, c'est Albertine et Madame Arnoux. Il veut protéger
ses personnages
de la réduction biographique.
Oui, oui, oui.
Alors la biographie n'est pas toujours réductrice. La curiosité biographique peut être, au contraire, amoureuse, mais ce risque est très grave.
Et il y a dans Le Testament trahi cette charge contre le biographe de Hemingway. Vous vous souvenez de ce passage? C'est une très belle petite nouvelle de Hemingway qui, par son biographe, est réduite à des détails biographiques assez sordides qui ruinent complètement la portée de cette nouvelle et la beauté de cette nouvelle. Donc tout ça, bien sûr, c'était entendu dès le départ, c'était à éviter, il fallait qu'il n'y ait que l'œuvre. Et encore, moi, bon, j'ai fait cette biographie de l'œuvre à la fin, simplement pour donner un certain nombre de renseignements sur la diffusion de l'œuvre, sur la construction et la diffusion de l'œuvre. Mais ce n'est pas la vie de Kundera.
Non, ce n'est pas la vie de Kundera, ça c'est vrai. En effet, mais alors, en tout cas, là, nous n'aborderons pas ce thème lui-même. Simplement, Kundera, donc, est aujourd'hui édité dans la très prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. C'est une consécration française. Et que représente la France pour Milan Kundera? Je ne sais pas s'il faut le tchéquiser ou non. En tout cas, d'une certaine manière, c'est devenu un grand écrivain français. Il a choisi d'écrire en français sur le tard. Aujourd'hui, il obtient cette consécration. Donc, c'est quoi la France? Le rapport de la France et de Kundera, François Ricard?
Écoutez, je pense que d'abord, il est francophile depuis sa jeunesse. Bien sûr, venir en France, pour lui, c'était... il n'avait pas le choix. Au fond, il n'a pas renoncé à la langue tchèque et à la Tchécoslovaquie. La langue tchèque lui a été enlevée, au fond, par l'histoire. Et il est venu en France, au fond, pour poursuivre son œuvre. Et je crois qu'il a voulu lui-même s'inscrire à l'intérieur de la tradition française, de la littérature française, parce que cette littérature a, selon lui, un accès direct à l'universel. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que non seulement il a commencé à écrire en français, ses essais d'abord, puis ses romans, mais qu'il a lui-même veillé de manière très attentive aux traductions françaises de ses livres et qu'il a voulu que ces traductions françaises soient considérées comme les références, comme aussi fidèles à sa volonté que les textes tchèques. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit un écrivain français pour autant. Il n'est ni tchèque, ni français, il est ailleurs.
On est écrivain par sa langue. Il est d'abord écrivain tchèque, puis français, comme Nabokov était d'abord russe, puis américain. Il est double.
Et que répondriez-vous à cette question? La France pour Kundera, c'est quoi, Funik Fernandez?
Moi, je l'ai connu en 1974, quand il est arrivé.
Un peu de biographie, alors.
Oui, un peu de biographie. Non, mais...
très discrète.
Non, très discrète. Mais ce qui m'a amusé, c'est qu'il avait un passeport français, donc il ne pouvait aller en vacances qu'en Martinique. Il ne pouvait pas aller en Europe. Il n'y avait pas d'Europe à l'époque. Et ce qui l'enchantait, me disait-il, c'est qu'en Martinique, on ne savait pas où était la Tchécoslovaquie. Donc, il était de nulle part. Vous voyez, là, il était encore plus dépersonnalisé. C'est un petit détail, je trouve, intéressant. Il confondait Prague avec Istanbul, avec là-bas. Il ne s'occupe pas par là. Et donc, il est venu en France. Il a demandé un poste. Enfin, il a cherché un poste. Et il est arrivé à Rennes, où j'étais professeur. J'ai contribué à le faire nommer à Rennes. Professeur associé, et il s'est installé dans le gratte-ciel de Rennes, au 30e étage, et face à Prague, c'est face à l'Est.
Ah oui?
Oui,
c'était délibéré.
Je ne sais pas, il débarquait dans une petite voiture pleine de livres, et je pense que c'est délibéré, oui, parce qu'il y avait le choix. Et il est resté 2-3 ans, et après il a été nommé aux études, et il est toujours... il est quand même très, très français, bien qu'il ait gardé un fort accent.
Et cette période rennaise, vous l'avez vécue avec lui, alors,
Funik Fernandez? Moi, j'habitais Paris, il venait me chercher tous les lundis au train, et sa femme Vera nous faisait un repas merveilleux, au pavot et au...
avec des recettes. C'est un biographème,
comme ça. Je le note.
Voilà. Et c'était extraordinaire parce que c'était sinistre, cette université de Rennes. Je crois qu'il serait d'accord là-dessus. C'était les professeurs, c'était une atmosphère épouvantable. Il y avait lui, heureusement, et on riait beaucoup. Et je repartais le mardi, et pendant ça a duré 2-3 ans. Et bon, on prenait le train. Après, elle a arrêté aux études, mais...
Qu'est-ce qu'il enseignait à
Littérature comparée, je crois.
Oui, alors surtout l'Europe centrale, Vienne.
Kafka.
Kafka, mais aussi les...
Broch, musique.
Oui, enfin, les gens de comme ça. Et après, on prenait le train ensemble, parce qu'il a déménagé. Ils sont allés à Paris, mais il était encore professeur à Rennes.
Ah oui, il faisait la
navette.
Donc,
je voyais très souvent, là. Oui. Et... je crois que la France, il est très critique envers la France aussi. Il doit l'être toujours, comme nous le sommes tous d'ailleurs. Mais enfin...
On peut peut-être ajouter une chose à ce sujet. C'est quand même significatif qu'il ait choisi de publier en France, dans la grande collection française, dans la Pléiade, son œuvre.
Oui.
Il n'y a pas l'équivalent. Bon, il est traduit dans une trentaine de langues. Tous ses livres sont traduits dans une trentaine de langues, mais il n'a pas choisi de donner son œuvre finale, en quelque sorte, en allemand ou en anglais, mais bien en français.
Ah oui, mais ça, je crois que la littérature française...
Voilà, c'est quand même... la France occupe une... Et la littérature française occupe une place tout à fait privilégiée.
Mais alors là, il faut aborder une question capitale, qui est celle de la langue, et donc celle de la traduction aussi. Parce que Kundera écrivait d'abord en tchèque. Très vite, la France a occupé pour lui une place essentielle. Et il s'est heurté au terrible problème de la traduction.
À cause de vous.
S'est aperçu, oui, enfin, c'est ce qu'il dit très gentiment, ouais. En effet, parce que dans un entretien à l'Express, c'est l'époque où je le rencontrais, donc fin 79, début 80, je lui dis mon étonnement du contraste qu'il y a entre le style baroque, fleuri, chamarré de la plaisanterie et le style extrêmement dépouillé des livres qui suivent. Je dis, y a-t-il eu chez vous une révolution esthétique ? Et il me dit, à ce moment-là, qu'il tombe des nues et donc il va regarder la traduction. Peut-être avait-il déjà commencé avant. Il s'arrache les cheveux parce que il y a des métaphores dans tous les sens qui ne sont pas les siennes, d'où un travail énorme.
Mais quand il disait le ciel était bleu, le traducteur mettait, il n'y avait aucun nuage qui voguait dans le ciel.
Il donne des exemples assez cocasses.
Il y a toujours été laconique.
Que vous relevez vous-même.
Caustique et laconique, le contraire justement des... Il y a une satire des angelots superposés là, colonne baroque, les nuages, les angelots qui essaient de monter au ciel, le ciel s'en fiche complètement. Donc ils se moquent du style baroque.
Bien sûr.
Alors ça a été un grand travail de sa vie.
Oui, il a vécu la même expérience en anglais. Je ne sais pas s'il a vécu aussi dans d'autres langues, mais en anglais aussi. Il y a eu 5 éditions de La plaisanterie en anglais aussi. Il a constamment repris le texte. Et en français, il a continué à corriger le texte de La plaisanterie et ses autres textes en vue d'en arriver toujours à un style français, si on pense aux traductions surtout, qui reproduisent aussi fidèlement que possible, aussi exactement que possible, son style tchèque tout à fait dépouillé.
Le fait qu'il préfère la France, c'est qu'il considère que l'édition française est l'édition originale, même des traductions. Tous ces livres, il faut se référer à l'édition française actuelle, alors celle-là définitive.
Deux choses à ce propos. J'ai pu me dire à un moment donné qu'il était trop tatillon, mais j'ai fait une expérience terrible pour un autre auteur que j'aime, et dont Kundera parle. Notamment dans une rencontre, Philippe Roth, le professeur de désir. Il avait écrit un article qui est devenu la préface de la première édition du professeur de désir. Cette préface a disparu, ce que je regrette. Je regrette aussi qu'elle ne figure pas intégralement.
Elle est revenue dans le rideau, non ?
Deux pages.
Oui, bien sûr.
Et c'est très épuré, mais tout aurait pu y figurer, peu importe. Je relis récemment Le professeur de désir, qui est un livre moins facile d'accès en réalité que les grands récits captivants, Pastoral américaine ou La tâche, mais c'est un livre magnifique, et la traduction est un massacre. Un massacre, mais absolument effrayant. Le mot « punitive » en anglais est traduit par « primitif » en français. C'est-à-dire un traducteur qui ne lit pas. « Le je et le tu » de Martin Buber devient « toi et moi ». Les récits de Tchekhov deviennent les contes de Tchekhov. Erreur, indifférence, paresse, c'est un véritable massacre. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il faudrait que Philippe Roth soit aussi maniaque que Kundera, parce que on ne peut pas lire. Ce n'est pas le même livre, en quelque sorte. Et les correcteurs ne s'en soucient pas non plus. C'est toute la chaîne de production qui est en cause.
C'est pire, parce qu'on retraduit maintenant des œuvres traduites il y a 50 ans pour une question de droit en plus mal. Le Guépard, là, de Pédouze, qui était traduit correctement.
Très bien.
Maintenant, c'est effrayant. Il y a la fameuse phrase il faut que tout change pour que rien ne change. Maintenant, c'est il faut que rien ne change pour que tout reste tel que c'était. C'est effrayant. Il y a un merveilleux de Saba Ernesto où on lit allons faire 4 pas, quattro passi. On dit allons faire 2 pas en français, ou allons faire quelques pas, on ne dit pas 4 pas. On a traduit Joyce aussi, Ulysse. C'est illisible. Alors que c'était Larbeau qui l'avait traduit quand même, avec la garantie de Larbeau, avec Joyce qui supervisait. Mais comme il y a une question de droit, et pareil, il faut t'entendre. Mais maintenant, c'est pire.
Philippe Roth, on peut retraduire Le professeur de désir parce qu'une chose est sûre, ça ne peut pas être pire. Et ce serait même une obligation. Alors je lance un appel aux éditions Gallimard parce que c'est un grand livre et que les...
Mais en même temps, un auteur ne peut pas contrôler toutes les traductions. Dans le cas de Kundera, bien sûr,
Mais
au moins, il pouvait contrôler le texte français, un peu anglais, allemand.
Et je pense que c'est très important parce qu'on parle toujours du style dépouillé de Kundera. Mais moi, une chose me frappe, c'est son goût des métaphores. Et donc, même le caractère très poétique du style de Kundera. Et j'aimerais qu'on s'arrête à cela, parce que vous l'avez écrit vous-même, La vie est ailleurs, François Ricard, est une critique de la poésie. C'est l'âge où le poète régnait avec le bourreau. Donc, plutôt même une critique de l'âge lyrique. Mais en réalité, Kundera veut en quelque sorte introduire la poésie dans le roman. Donc il y a chez lui un grand amour de la poésie. Ne fût-ce d'ailleurs que par cette composition en paragraphes, ce sont des poèmes en prose qui ont une certaine autosuffisance et les métaphores y sont très soigneusement choisies et parfois et presque toujours extrêmement belles. Donc Kundera est poète à sa manière.
Bien sûr, le texte est travaillé. Le texte est travaillé aussi minutieusement que si c'était des poèmes, ça c'est certain. Et il a dit très souvent, je ne suis pas contre la poésie. La vie est ailleurs n'est pas un livre contre la poésie, c'est contre la poésie lyrique, c'est contre le lyrisme, bien sûr. Et un de ses souhaits dès le départ, c'est d'inventer la poésie du roman, ou en tout cas de faire du roman un texte poétique, au sens où la langue doit y donner sa plus grande beauté, mais ça n'est pas de la poésie lyrique, bien sûr. Et cette préoccupation poétique se manifeste dans le choix des mots, dans la ponctuation. La ponctuation de Kundera est très, très savante dans le choix des métaphores, mais aussi, et peut-être encore plus, dans la composition d'ensemble, dans la construction d'ensemble qui s'inspire de la musique, mais qui est en même temps une forme de poésie.
Oui, la musique, c'est très important. Dominique Ferrandez. Son père était musicien, comme on sait, grand pianiste de profession. Lui-même
a été compositeur, il a composé.
Et lui-même joue du piano, et la musique a une grande place. Il a fait connaître Jan Hatzius en France, à un moment où on ne jouait pas du tout. Et dans tous ses romans, il y a des instrumentistes, il y a des trompettistes, des ceci, cela. Je crois que la musique, je dirais qu'il est plus musicien que poète, moi, personnellement. Je sens la composition musicale que la composition poétique.
Alors, pour réconcilier ces deux options, musicien et poète, j'ai un passage de L'Ignorance sous les yeux, justement, où il parle de la musique, justement, et de ce qu'elle est devenue. Et il en parle, me semble-t-il, en termes très poétiques. Si jadis on écoutait la musique par amour de la musique, aujourd'hui, elle hurle partout et toujours, sans se demander si on a envie de l'écouter. Elle hurle dans les haut-parleurs, dans les voitures, dans les restaurants, dans les ascenseurs, dans les rues, dans les salles d'attente, dans les salles de gymnastique, dans les oreilles bouchées des Walkmen, musique réécrite, réinstrumentée, raccourcie, écartelée, des fragments de rock, de jazz, d'opéra, flow où tout s'entremêle sans qu'on sache qui est le compositeur, la musique devenue bruit est anonyme, sans qu'on distingue le début ou la fin, la musique devenue bruit ne connaît pas de forme, l'eau sale de la musique... où la musique se meurt.
Oui, il y a une
sale de la musique.
C'est un passage repris de L'Ignorance, parce qu'il dit que Schoenberg et Stravinsky sont disputés toute leur vie, et que maintenant, les cadavres flotteraient, désespérés, parce que l'eau sale, justement, de la musique d'ambiance envahit tout, et que leur différent n'a plus de sens aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de musique, pratiquement, il n'y a que du bruit.
Non, bien sûr. C'est sûr qu'il y a chez Kundera, depuis le début, mais de manière encore plus marquée dans ses derniers livres, une sorte de sensibilité crépusculaire, en quelque sorte. Il n'aime pas le monde, ça, c'est certain. Il n'aime pas ce qui est devenu le monde. Et ce qui rend le roman d'autant plus précieux, bien sûr, dans la mesure où le roman peut voir ce qui est devenu le monde et en même temps s'en détacher. Et
il faudrait parler aussi de ses dessins, parce qu'il dessine.
Ses dessins ont été publiés dans le dernier numéro du magazine littéraire.
Il faut que je voie ça. Des dessins, des caricatures, ça c'est le côté caustique qu'il y a dans ses livres, mais très très fort. Et ça c'est une tradition pragoise. Parce que les pragois sont très très forts dans la caricature, l'humour. C'est une façon de se défendre contre l'oppression qui a toujours été en Tchécoslovaquie.
Sur
les Allemands, les Russes, les Autrichiens...
Non, musique, dessin, poésie, depuis sa jeunesse et toujours à travers son œuvre, ça revient. Il y a une sorte de passion pour l'art moderne chez Kundera.
Voilà.
Une de ses grandes préoccupations a été de réconcilier le roman, en quelque sorte, avec le modernisme, avec l'art moderne, mais autrement que ce qu'avait fait le nouveau roman ou l'anti-roman. Voilà, il a cru qu'à cette possibilité de refaire du roman un art moderne.
Vraiment. Un art moderne, et il s'est inscrit dans une lignée qui est celle, dit-il, du modernisme anti-moderne.
Voilà,
il a réconcilié aussi notre idée du moderne avec la critique de la modernité, critique qui prend notamment la forme d'une réflexion sur l'âge lyrique. C'est un thème qui vous intéresse, on vient d'en parler. C'est quoi ? Pourquoi cette hostilité de Kundera au lyrisme ? Qu'est-ce que représente le lyrisme pour lui, François Ricard ?
Je crois qu'essentiellement, le lyrisme représente le mensonge, d'abord et avant tout, et le refus comme le refus de voir les choses telles qu'elles sont. C'est au nom d'une sorte de grand réalisme qu'il y a chez Kundera, ce refus du lyrisme qui est pour lui tout simplement un étalage de la subjectivité et le refus de voir le monde et l'existence telles qu'ils sont, c'est-à-dire complexes, ambiguës. Le lyrisme, c'est en quelque sorte l'amour de la vérité d'une vérité toute faite, d'une vérité facile et unique.
Oui, moi je crois qu'il y a, plus que ça. Ça, c'est le côté rationnel. Oui. Il y a un côté purement émotionnel. Sûr, parce que moi, je me suis disputé avec lui au sujet de Tchaïkovski. Moi, j'adore Tchaïkovski, lui déteste. Il trouve que c'est du pathos.
Ouais.
Alors, pas, alors, la musique, c'est pas. Vous voyez, c'est une chose uniquement de sensibilité. Il a, pour lui, lyrisme se confond avec pathos, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il en. Je sais pas, c'est
presque le kitsch.
Avec soufflure, oui, le kitsch.
Mais dans le lyrisme, il y a aussi le fait, cette association du lyrisme et de la jeunesse.
Ouais.
La jeunesse, c'est l'âge lyrique par excellence. L'âge lyrique, c'est le titre d'ailleurs qu'il voulait
oui,
donner.
Oui, les jeunes, il est très dur sur les jeunes.
Ouais, alors juste,
mais, l'immaturité des jeunes, il y a des choses terribles dans la plaisanterie.
Oui. Et justement, pourquoi, d'où vient ce lien entre lyrisme et jeunesse, François Ricard?
Je pense que ça vient probablement à l'origine de sa propre expérience, mais ça vient aussi, c'est un thème qu'on trouve déjà chez Gombrowicz, par exemple, qu'on trouve déjà chez Flaubert dans l'éducation sentimentale. Je pense que, et qu'on trouverait même, je crois, chez Cervantes, je crois que le roman, c'est Lukács qui l'avait dit, le roman est un art de la maturité. Il ne peut pas, on ne peut pas écrire de roman à 18 ans. On peut être Rimbaud à 18 ans, on ne peut pas être Balzac à 18 ans. Et le roman, donc, c'est ce qui permet de nettoyer en quelque sorte le monde du lyrisme, des nuages du lyrisme.
Il y a un thème important, j'ai dit, c'est l'illusion. Les jeunes sont pleins d'illusions que la maturité dément. La valse aux adieux.
Oui, mais en même temps, le démenti des illusions, c'est aussi une sorte de supériorité malgré tout de l'âge mûr. C'est pas le passage à la désillusion, c'est le passage à la perplexité et à la complexité.
Oui, le jeune lyrique devient un traître. Ce qui prouve que le lyrisme ne protège absolument pas de l'abomination.
Et alors, aussi peut-être... Alors, justement, quelque chose, une dernière question sur un sujet d'étonnement, parce que Kundera est consacré, mais j'ai le sentiment que sa pensée n'a pas de réelle influence. Parce que je trouve que, par exemple, La vie est ailleurs est un livre terrible, notamment sur mai 68, puisqu'il y a une comparaison entre la terrible révolution pragoise et mai 68. Les murs de la Sorbonne sont pleins de slogans qui étaient déjà ceux de 48. Alors, soyez réalistes, exigez l'impossible. Puis, il y en a un en 48, assez d'églises. Ce mot d'ordre plaît à Jaromil. Particulièrement, il se compose de deux mots et rejette deux millénaires d'histoire. Donc, il y a là une ironie cinglante. Nous avons célébré le 40e anniversaire de 68 comme si de rien n'était. Et aujourd'hui encore, quand on parle par exemple de ce qui se passe dans le monde, on dit il y a une rétraction française dont témoigne le vote Le Pen parce que c'est Emmanuel Todd qui parle. Le corps électoral vieillit. En revanche, en Tunisie et en Égypte, des jeunes mènent la révolution. Donc, en quelque sorte, et c'est un expert qui parle. Donc, le lyrisme va de soi. La supériorité de la jeunesse va de soi. Et on se dit, alors oui, mais Kundera en Pléiade, mais au fond, à quoi ça rime? Ouais. Quel impact ça a?
Non, bien sûr, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais c'est certain que cette critique, elle est définitive, en quelque sorte. Elle est indiscutable, cette critique du lyrisme, cette critique des illusions de la jeunesse. Qu'on trouve pas seulement dans la vie est ailleurs, un peu partout, même dans Risibles Amours, dans ce texte qui s'appelle Le Colloque, où il y a ce personnage de Fleischmann, jeune homme. Ça revient, c'est un thème constant dans l'œuvre de Kundera. Bon, que ça n'ait pas d'influence, je pense que c'est probablement parce que cette glorification de la jeunesse est un des thèmes fondamentaux de notre temps.
Oui, mais je ne suis pas d'accord quand même.
On terminera sur ce désaccord.
Moi, j'ai vécu 68, c'est quand même, c'était formidable. Ça a quand même changé la société française qui était ankylosée au dernier degré. Alors, il y a eu des ratés, des choses excessives, des choses, mais ça a quand même des choses acquises. Dans les mœurs, par exemple, il y a un progrès formidable qui est dû à 68.
Bon, mais très bien. Nous terminons sur ce vibrant éloge. Merci Dominique Fernandez. Merci aussi François Ricard. Je rappelle que nous allons parler de l'édition en Pléiade de l'œuvre de Milan Kundera, pas d'erreur. Et cette édition, vous en êtes l'auteur, François Ricard. J'ai aussi cité le dernier numéro du magazine littéraire qui porte précisément sur Kundera en Pléiade, le sacre d'un incroyant.
La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Quelle politique pour la France ?» et mes invités seront Renaud Camus et Manuel Valls. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Delphine Lemaire. À la technique aujourd'hui, Philippe Palares, dans un instant, Concordance des temps.